Bernard Guérin, je suis directeur d'hôpital à Rennes.
Directeur de quoi, pardon ?
D'hôpital.
Très bien.
À Rennes. Donc j'ai été particulièrement intéressé par votre exposé. Et je voudrais revenir sur un des propos du président de la République à l'occasion de l'inauguration de la LGV vers Rennes, qui parlait avec des cheminots sur le devenir de la SNCF. Et en disant... il faudrait que la SNCF devienne un agrégateur de mobilité. Et ça fait référence un peu au débat qu'on a eu tout à l'heure avec la société, avec la SEMSO Garis, sur qu'est-ce qui est le facilitateur des mobilités. Est-ce que c'est le nœud ou l'arc? Ou le fait que vous disiez que là où ça posait problème, c'est quand les nœuds étaient congestionnés. Donc je voudrais savoir si pour vous, en matière de flux logistique s'agissant de Sogaris ou de flux de personnes s'agissant de la SNCF, est-ce que ça a un sens le concept d'agrégateur de mobilité ou de facilitateur de mobilité?
Oui, alors je crois que oui, en même temps les analogies entre les deux secteurs ne sont pas absolues. Du côté du fret, ce qu'on constate, c'est une sorte de hiérarchisation entre les nœuds et les arcs. Les grands opérateurs, en tout cas en transport terrestre, focalisent leurs investissements sur les nœuds du réseau, contrôlent les plateformes, les entrepôts, les systèmes de tri, plus le système d'information, et délèguent, ça veut dire sous-traitent, de plus en plus, voire presque intégralement, la production du transport proprement dit. Donc ils sont des intégrateurs, mais en France et en Europe, plus on est un gros transporteur et plus on est un donneur d'ordre. Et donc on est moins transporteur et plus commissionnaire de transport, qui fait effectuer à plus petit que lui des tâches dont il garde la responsabilité de l'organisation, de la commercialisation, etc. Nicolas, en matière de transport de voyageurs, c'est pareil. Flixbus ou Ouibus avaient commencé à acheter des bus. Maintenant, ils font travailler des sous-traitants, quitte à ce que sur les camions ou sur les cars, il y a écrit Ouibus, et non pas Tartampion et fils, transporteur à Carpentras. Donc l'intégration s'effectue, mais à travers une hiérarchisation, une sous-traitance entre les gros et les petits. Ce n'est pas une économie duale, c'est une économie bipolaire. Et le pôle plus et le pôle moins ont besoin l'un de l'autre, mais ils ne sont pas les mêmes. Du côté des voyageurs aussi, je crois qu'effectivement, désormais, on n'est plus dans un transport segmenté. Il y a les moyens techniques et il y a le désir d'une organisation de transport optimisée de bout en bout. Et nos moyens, nos téléphones portables devraient, les plateformes numériques, nous en donner des solutions. Et donc la SNCF en est consciente. La SNCF, elle a d'énormes problèmes, et le président de la République, d'ailleurs, les a énoncés avec une certaine brutalité, mais je crois que c'est comme ça qu'il veut avancer, c'est sa méthode. Mais je crois que la SNCF, qui est très critiquée à beaucoup d'égards, a raison de vouloir sortir du chemin de fer et être capable d'offrir des solutions de mobilité en s'occupant des autocars, quitte à ce que pour l'instant il y perd beaucoup d'argent, ou en s'occupant de covoiturage, ou en s'occupant de transport routier, ou en s'occupant de gares de correspondance multimodale, d'information, de systèmes d'information, de systèmes de tarification intégrée, etc., etc. Donc je crois que c'est un enjeu considérable, d'autant que, et notamment dans les grandes métropoles, avec d'ailleurs une fin de l'histoire qui n'est pas encore écrite. Qui va contrôler tout ça? Est-ce que c'est les autorités organisatrices, quitte à ce qu'il y en ait qui soient locales ou métropolitaines ou régionales avec chacune ses compétences? Est-ce que ce sera les opérateurs de transport qui peuvent être dans des modes différents? Est-ce que ce sera les grandes entreprises qui contrôlent les systèmes d'information et les data? Qui va réguler tout ça? La réponse n'est pas évidente. Mais je crois qu'effectivement, assurer une mobilité de bout en bout, c'est vraiment un enjeu stratégique considérable.
Oui, je pense qu'on va aborder cette question cet après-midi. Ludovic?
Oui. Bonjour, donc Ludovic Valadier, Caisse des dépôts. Je voulais vous poser une question. Alors, en fait, on travaille en sous-atelier les dates, et donc moi je fais partie de l'atelier Roissy, c'est-à-dire on se pose la question de la relation de l'aéroport, de la ville de Paris et sa place dans le système du Grand Paris, de la métropole. Donc j'avais une question, j'aurais aimé avoir votre analyse sur le projet qui fait encore débat, même s'il a trouvé son financement, sur le doublement de la liaison et en gros le projet Charles de Gaulle Express.
Le CDG Express.
Le CDG Express, oui.
Alors, je ne me présenterai pas comme un expert en la matière, mais effectivement, Roissy est un très bel exemple que je citais volontiers à mes étudiants. Il suffit d'un escalator dans l'aérogare pour multiplier ou diviser par 10 la longueur du transport. On a l'intercontinental, et puis des liaisons aériennes européennes ou nationales, et puis il y a le TGV dans la même aérogare, et puis il y a le RER dans la même aérogare, et puis on a aussi les transports hectométriques à l'intérieur de l'aérogare. On a vraiment toute la palette de 500 mètres à 20 000 km. Alors, par rapport à CDG Express, je crois que, et surtout si les Jeux Olympiques se font, ça va, je pense, accélérer la chose. Le RER B, dont je suis un utilisateur régulier quand je vais prendre l'avion, il n'est pas en très bon état. Il mérite d'investir. C'est-à-dire, si on dit on met tout l'argent sur CDG Express et puis les banlieusards misérables qui prennent le RER n'ont qu'à s'en satisfaire, je pense que politiquement, ce ne serait pas très intelligent et ça a peu de chances de passer. Mais moi, l'idée d'un train plus rapide et beaucoup plus coûteux pour l'usager ne me choque pas. Je crois qu'on va à Heathrow rapidement, on va à Narita au Japon rapidement. À Washington, c'est marrant parce que ça fait 30 ans qu'ils n'arrivent pas à construire un RER de 20 km, mais enfin, on n'est pas en Chine. Hein. Mais donc, les grands aéroports du monde me semblent reliés de façon plus efficace que ça au centre-ville. Et pour les touristes, effectivement, avec des valises, on sait très bien que c'est quand même très inconfortable. Quoi. Et que la solution du taxi n'est pas vraiment convaincante, outre son prix. Donc, mais voilà, je ne suis pas spécialiste, je n'ai pas travaillé là-dessus, c'est mon impression, mais je ne me présenterai pas comme expert pour vous répondre.
Magali,
tu voulais poser une question? Oui, non, c'était sur les questions de cycle de vie du réseau, parce que enfin, c'est vrai que de voir toutes ces lignes quand on balade, toutes ces lignes abandonnées,
oui,
prises par les airs. Donc je conçois qu'il y a un coût de gestion énorme si on ne s'en sert pas. Enfin, moi, je travaille à Grand Paris Aménagement et aussi à l'OPA Orsa. Donc en ce moment, il y a des faisceaux de lignes où on va urbaniser pour faire des logements. Et en gros, le déterminant, c'est la SNCF qui dit bah, « Nous, en termes de frais, on ne fait plus grand-chose, donc on ne se sert plus de tout un tas de faisceaux, donc vous pouvez vous en servir. » Et je m'interroge vraiment sur... on a quand même des problématiques climatiques qui ne sont pas à 120 ans, donc je trouve ça... Enfin, ça m'interroge beaucoup en disant « Mais c'est quoi ce raisonnement court-termiste ?»
Bien, on pourrait passer un grand moment à discuter de cette bonne question. Je réponds très vite. Effectivement, il y a un côté irréversible. Si on urbanise un faisceau de tri de wagons, il n'y aura plus jamais de tri de wagons à l'échelle, en tout cas de nos pauvres histoires humaines. Alors, premièrement, il n'y a pas toujours des évidences. Le chemin de fer n'est pas toujours vertueux du point de vue environnemental. Si vous tirez trois wagons avec un locotracteur, vous consommez beaucoup plus de gazole et vous émettez infiniment plus de particules qu'un camion, surtout si c'est un camion Euro 5, Euro 6. Les automoteurs pour les voyageurs, hein, quand ils sont électriques, c'est bien. Et en France, on a une économie, une électricité décarbonée. Mais si c'est un gazole, y compris moderne, il consomme 125 litres au 100. Un autocar moderne consomme 25 litres au 100. Il a 50 places. Donc le train ne devient plus efficace du point de vue énergétique que la route qu'à partir de 5 x 50 égale 250 voyageurs dans un TER. On ne voit pas toujours 250 voyageurs dans un TER gazole, même aussi moderne soit la rame. Hein. Donc le chemin de fer, c'est plus compliqué que ça, il n'est pas toujours plus vertueux. Et autre réponse, je crois qu'il faut garder une innervation du territoire, et effectivement, les petits ruisseaux font les grandes rivières. Si on coupe tout le chevelu, comme on dit, le réseau capillaire des lignes secondaires, une part du fret sera et irréversiblement abandonnée. Alors il y a des efforts, par exemple... pour accepter que la SNCF, malgré son histoire, et ses réussites et ses traditions, accepte d'abandonner la gestion de ces lignes, y compris pour y appliquer des normes techniques spécifiques. Pour faire rouler des trains de voyageurs à 120 km/h, il vaut mieux une voie impeccable. Pour faire rouler des trains de marchandises à 40 à l'heure, il peut y avoir des chaos, on peut secouer la marchandise, on peut faire dérailler un wagon de temps à autre, c'est pas grave. Et du coup, ça fait des coûts d'entretien bien moindres. Mais il faut accepter que la belle idée d'un réseau homogène et au top de la qualité, qui est un peu une certaine fierté, n'est plus d'époque. Et qu'on ait un réseau différencié quant à ses exigences et ses modes de gestion pour réduire effectivement ce coût. Parce que entretenir une voie en bon état pour faire passer un train de céréales tous les trois jours, économiquement, il vaut certainement mieux, quelle que soit la façon dont on compte, Et si on comptait le CO2, ça fait le CO2 au prix du caviar, par comparaison avec la route, hein, qui fait compter le coût de la construction ou de l'entretien d'une voie très peu utilisée. Donc malheureusement, on peut voir, et puis on voit bien des zones logistiques, et Christophe Ripper le disait tout à l'heure, au milieu de Sogaris, il y a une voie de chemin de fer, il y pousse des fleurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, faute d'opérateurs efficaces, alors on pourrait rentrer longuement dans l'analyse de pourquoi l'efficacité ferroviaire n'est plus ce qu'elle était, parce qu'aussi l'économie a changé et les besoins de transport ne sont plus ce qu'ils étaient, pourquoi cette voie est aujourd'hui un jardin fleuri, mais pourrait redevenir, Ripper l'a dit, demain à nouveau utilisée.
Une dernière question.
Oui, excuse-moi.
Virginie Wagner, SNCF Réseau.
J'espère que je n'ai pas dit trop de bêtises.
Non, si, en charge du projet Roissy-Picardie, qui est une priorité 1 de la mobilité 21.
Ah bon, ma carte n'était pas bonne, alors. Ah bon, la faute au journal.
Non, juste un témoignage sur le fait que...
Je n'ai dit qu'une bêtise. Ah ben, je m'en tire bien.
Non, c'était pas mal.
Pas mieux faire, c'est un bon rêve. C'est bien.
C'est en période de rentrée scolaire.
Voilà, je suis un éternel étudiant, vous savez, donc il n'y a pas de problème.
Il faut toujours essayer plus.
D'ailleurs, je vous vois, alors que normalement, à l'IEDAT, on se tutoie toujours.
Et la SNCF aussi.
J'allais oublier.
juste témoignage sur le fait qu'en effet, le ferroviaire n'est pas une solution sur toutes les mobilités. Donc forcément, des lignes sont abandonnées aujourd'hui pour cause économique ou raison économique. Et donc, il y a une vraie, aujourd'hui, réflexion de l'entreprise sur quel est l'avenir de son réseau. Alors, les priorités sont déplacées d'une année sur l'autre. Un coup, c'est du TGV, un coup, c'est de la maintenance. Donc ça, c'est le classique balancier de la SNCF. Moi, j'avais une question sur la légitimité de la SNCF à réfléchir sur toute la mobilité, en fait. SNCF, ferroviaire. Encore plus SNCF Réseau. Moi, je suis complètement là-dedans, disons. Il faut, en effet, élargir le champ des réflexions. Et le projet que je porte, Principe Picardie, n'est pas autoportant et a besoin de réfléchir sur la mobilité, par exemple, du Val d'Oise. Mais quelle est la légitimité de la SNCF à faire ça? Et si ce n'est pas la SNCF, qui va vouloir le faire? Quelle est la gouvernance qu'on peut mettre en place sur ce type de réflexion sur la mobilité? Un coup du bus, un coup du ferroviaire, un coup de la voiture, quoi.
On est loin des infrastructures, mais, mais c'est passionnant. Alors, premièrement, une réponse politique à ta première affirmation. Un coup c'est comme ci, un coup c'est comme ça. À mes yeux, c'est pas à la SNCF de décider de sa stratégie. On a un État stratège qui doit jouer son rôle et qui doit fixer. Alors, ça n'empêche pas la SNCF de réfléchir à comment mettre en œuvre intelligemment, etc., la stratégie que son actionnaire lui a fixée. Mais enfin, bon, ça c'est tout un débat, mais qui n'est pas tout à fait symbolique. Hein. Et je ne pense pas qu'on soit dans une période d'oscillation, un coup j'y vais dans un sens, un coup j'y vais dans l'autre. Il y a toujours des transitions, et quand on est dans une transition, l'ancien et le nouveau coexistent. Mais Mobilité 21... amorcer un virage. J'ai entendu d'ailleurs que le président de la République saluait, c'était la seule personne qui l'ait salué nommément, le président du comité Mobilité 21, un peu pour valider le virage intellectuel que ça représentait et politique. J'ai entendu Madame Borne, on va voir bientôt Monsieur le Premier ministre, ouvrant les assises de la mobilité, ce qu'il en est. Je crois qu'on est en train de vivre un virage et qu'on va effectivement pas hésiter entre la ligne nouvelle ou l'entretien du patrimoine existant. Désormais, pour quelques années, peut-être plus que ça, on va insister sur la rénovation du patrimoine existant plutôt que l'inauguration d'une ligne nouvelle. Alors, à mes yeux, la SNCF a raison de vouloir être un opérateur multimodal. Sinon, ce sera un sous-traitant. Elle sera fournisseur de transport ferroviaire de gare à gare dans une modalité d'une organisation, etc., qu'elle ne contrôle pas. Or, elle a une expérience, une compétence, elle a envie d'exister comme grande entreprise, ce qui me semble légitime, et être pertinente sur la nouvelle façon dont les marchés s'organisent. Et on n'a plus un marché ferroviaire qui soit totalement distinct du marché des autocars, du marché de l'autopartage, du marché de l'automobile, du marché des transports urbains, etc. etc. Voilà, voire de des vélos. Alors, je prends un exemple complètement différent dans le monde du transport aérien, où les intégrateurs des grands expressistes mondiaux DHL, UPS et FedEx ont bien compris qu'il fallait qu'ils soient intermodaux de bout en bout. Et par contre, les transporteurs aériens traditionnels, ils font voler des avions d'un aéroport à un autre. mais ils ne contrôlent pas la logistique de bout en bout. Et quand ils ont voulu sortir de cette dépendance et dire nous on pourrait ne serait-ce que vendre du fret à nos chargeurs et passer outre les transitaires à travers, qui sont des intermédiaires à travers lesquels le fret leur arrive, c'est très bizarre, mais les transitaires, 6 mois plus tard ou 3 mois plus tard, ils travaillaient avec leurs concurrents et plus avec la concurrente, avec l'entreprise qui voulait être à la fois fournisseur et concurrent. Donc il ne faut pas tomber dans cette nasse, cette dépendance, me semble-t-il. Et alors qu'il y a beaucoup de critiques à faire à la SNCF ou à Réseau, je pense que cette ambition intermodale est pertinente. Sinon, ça va devenir un fournisseur dépendant de stratégies de mobilité dont ils n'auront plus la vision d'ensemble. C'est mon opinion.